Myers has Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As a hustle and Lenny Wilkins leads the floor.
Bonjour à tous et bienvenue sur Money Time. Money Time, c'est votre émission basket sur Graphite 94.9 sur la bande FM, dans laquelle on décrypte, on décortique l'actu de la balle orange et où on envisage la culture basket sous toutes ses formes. Alors Money Time est également présent sur Facebook et Instagram, n'hésitez pas à nous y rendre visite. Et par ailleurs, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en streaming sur www.graphite.net et même la podcaster pour faire votre jogging sur podcloud.fr en tapant la Money Time. Quoi de plus déprimant, les amis, qu'un monde prévisible? Un monde où l'on peut savoir la météo à 15 jours. Un monde dans lequel le PSG va finir champion de France. Un monde qui annonce un nouveau ministre de l'Éducation nationale dans les 3 mois. Eh bien, bonne nouvelle pour toi, cher auditeur. Ce monde n'existe pas en NBA. On est en pleine bataille pour accéder aux demi-finales NBA, hein, des playoffs. Et disons-le clairement, on n'a pas, mais alors pas du tout anticipé ce qui s'annonce pour l'instant comme une campagne de playoffs all-time. Et c'est tant mieux, parce qu'au cours de cette émission, on aura du grain à moudre, comme Miami et Memphis au premier tour. Enfin, c'était eux le grain moulu. Hein. Des « ah bah je te l'avais dit hein, », genre des 3 Houston, et surtout des « ah bah là, franchement, on est sur le cul ». Alors vous retrouverez évidemment vos rubriques actuelles, hein, avec la rubrique actu, le bilan et les enseignements du premier tour, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Le retour sur les matchs de la nuit et sur les séries en cours, hein, qui sont de moins en moins nombreuses, hein, forcément, on progresse dans le tableau. Un petit coup de gueule d'un homme en colère, Bruno Way, de retour. Et puis pour terminer, notre buzzer beater sur Greg Popovich, qui n'est plus coach, et sur la question fatidique, est-il le plus grand entraîneur de l'histoire? Et voici donc la team construite pour animer cette émission. Il est un peu notre Draymond Green à nous, deux fautes techniques par émission, des punchlines assassines à ses coéquipiers et des strangulations régulières sur Paul George, Charles Barkley et Jordan Poole. Salut Mehdi.
Salut les potos. Heureux de vous retrouver.
On parle même pas des blocs, quoi.
On parle même pas des blocs.
T'as intérêt de les annoncer, hein.
C'est vrai qu'ils annoncent pas.
On bouge pas sur les blocs. Solide sur les appuis.
Les cervicales s'en souviennent.
C'est l'effet surprise. Cet homme, justement, est plus clinique que Stephen Curry, plus létal que Tyrese Haliburton au mois d'avril, hein, je précise.
Ah ouais.
Et bien plus régulier dans cette émission que Kristaps Porzingis sur un parquet.
Ouais.
Salut Bruno.
Salut.
Ça va?
Ça va, ça va.
Allez.
Alors aujourd'hui, il est pas venu avec un t-shirt de Boston. Hein. Il a ressorti le vieux Sean Kemp des Sonic. Il est beau, son maillot.
Eh oui, c'est vrai. Il a sorti le maillot vintage. En avril-mai, lui, il ne dort plus, il ne se lave plus, il crie tout seul dans son salon et chaque année à cette période, sa femme songe à le quitter. Un peu comme Kevin Durant avec Phoenix.
Voilà. Ça va arriver aussi. Ça.
Oui, je préfère pas que ça arrive avec mon épouse. Donc du coup, c'est Wham. Et applaudissements du coup pour Wham. C'est une tradition de m'applaudir. Messieurs, tout le monde va bien?
Ça va.
Ok, alors on démarre avec notre rubrique actu tout de suite parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire dans cette émission. Hein.
Let's go.
Allez, c'est parti. Alors dans notre rubrique actu, on vous le dit tout de suite, on ne parlera pas ici des rumeurs de transfert autour de Kevin Durant. Hein, les déçus des playoffs, Houston, Miami, Memphis, voient une opportunité de profiter du spleen de la star dans le désert d'Arizona. Mais ce sera certainement le sujet d'une émission cet été.
C'est possible. C'est possible.
On ne parlera pas non plus de l'avenir sans issue du Greek Freak à Milwaukee qui commence à éveiller les appétits. Enfin, on n'en parlera pas, quoique. On va parler de la draft.
Ouais.
Peut-être qu'on en parlera. On ne parlera pas de la conférence de presse annuelle de Pat Riley qui laisse entrevoir de gros changements au Heat, mais sans faire de gros changements quand même.
Faut pas.
Du coup, voilà, on n'en parlera pas. Et c'est parti, on commence vraiment avec... Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'Europe, messieurs, avec une actualité qui date un peu. C'est la fin de l'aventure du Paris Basketball qui a brutalement pris fin en 3 matchs secs contre Fenerbahçe.
Oui, normal. Oui,
ouais, ils ont été rattrapés par le...
Par la réalité.
Progressivement, au cours de la saison, on a vu que c'est vrai que ça devenait de plus en plus compliqué, ce qui n'enlève rien à leur campagne. Ouais.
C'était une super campagne. Après, ouais. L'effet de surprise, il n'y en a plus. Fenerbahçe les a pris très au sérieux et leur ont fait comprendre que ça n'allait pas bien se passer.
C'était dans la cour des grands et que la cour des grands, elle se joue à 4 et mais Paris n'en est pas encore, n'en fait pas encore partie.
Mais félicitations à eux qui se rattrapent avec le championnat. Qu'ils aillent chercher quelque chose.
Qui va pas être sympa.
Non.
Il y a quand même du monde.
Puis là, ils ont perdu ce week-end. Ils ont perdu. Du coup, ils ont laissé la première place à Monaco. Ce serait bien qu'ils la récupèrent pour avoir l'avantage du terrain sur toutes les séries.
De la lâcher, Ça va être dur d'aller la chercher celle-là.
Exact.
Et justement, tiens, on parle de la Roca Team, puisqu'elle va avoir, elle, le privilège de se frotter aux 3 autres monstres du Final Four de l'Euroleague. Donc, le 23 mai, Monaco va affronter l'Olympiakos d'un certain
Evan Fournier.
Voilà, donc qui a fait quand même une très très bonne saison à l'Olympiakos. L'Olympiakos, le Panathinaikos, donc et Fenerbahçe, donc deux clubs grecs, un club turc et un club français. Monaco, est-ce que c'est un club français ?
Oui.
Oui, d'accord, c'est un club français.
Ouais, ça dépend des fois. Ouais.
Non, c'est un club français.
Pour la position, non ?
Oui, mais il joue dans le championnat de France.
Voilà,
c'est un club français.
Bien. En tout cas, Monaco commence à asseoir sa présence au sein de l'élite de l'Euroleague. C'est très bien pour le basket français. Et puis ça emmène aussi Paris, l'ASVEL vers des. Plus haut forcément, puisque c'est.
Oui, puis eux, ils sont capables d'aller faire un petit exploit. Moi, je.
Ils ont
je
eu très,
sens bien.
Très chaud contre Barcelone quand même.
Ils ont eu très très chaud.
Dernier match.
5 matchs.
Ouais.
Écoute, le principal, c'est d'être un point devant à la fin du match.
C'est
exactement ce qui s'est passé.
Et il n'y a pas de chance au basket, sauf à la loterie de la draft. Alors justement, messieurs, la loterie de la draft a rendu son verdict. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est cocasse le verdict.
Ah, Nico Harrison, il a bien sauvé ça.
Ouais.
On parle de la théorie du complot tout de suite.
C'est ça.
Je vous donnerai très rapidement les tours de draft, les équipes, leur position. Donc les Mavericks, qui avaient 1,8% de chance d'avoir le premier choix, récupèrent le gros lot, jouent au loto.
Mais ils vont peut-être pas prendre Cooper Flagg.
Ouais.
Nico Harrison jusqu'au bout.
D'accord. Alors, parce qu'il... Oui, c'est une démarche.
Ou alors, s'il défend pas assez, il va peut-être le trader.
Oui, non, mais il paraît que c'est un two-way player. Donc. Deuxième place pour les Spurs.
Ouais, incroyable. Alors,
ça, c'est incroyable.
Pas mal. Hein.
Ça, après, c'est du Giannis en barre. Ça.
Ouais, c'est très très fort.
Il y a 2 ans, ils prennent le premier choix. L'année dernière, ils ont le
quatrième.
Et là, cette année, ils prennent le deuxième.
On va en parler un petit peu. Les Sixers qui récupèrent le troisième, c'est très bien pour eux.
Ah oui, bien sûr.
Ça va permettre de préparer l'après-mbide.
Ouais, puis l'après Paul George aussi.
Il l'après.
L'après.
Okay. Et puis alors, on en parlait un petit peu en antenne, mais on est un peu content quand même parce qu'on se trouve qu'il y a quand même une sale tendance à tanker méchamment dès le début de saison pour certains clubs, dont les Hornets, le Jazz, les Wizards, qui récupèrent respectivement le 4e, 5e et 6e choix de draft alors que c'était les 3 plus mauvais bilans de la NBA.
Ouais, mais ça c'est bien.
Ils nous ont fait une petite Pistons.
Ouais.
Et ben voilà, en tout cas c'est très bien. Juste, peut-être au passage, dire quand même que cette année les Rockets seront 10e choix de draft. Ce qui est pas. Ce qui est pas
mais il y a des bonnes équipes qui ont des choix de draft très intéressants.
Ouais. Parce que OKC devait. Je crois que si Philadelphie était en dehors du top 3, c'était OKC c'est qui a récupéré le tour de draft. Donc ça s'est joué à.
Ouais, c'est
une chose. Un poil de
alors, c'est pas juste un tirage au sort, hein. C'est quand même très très compliqué le tirage au sort de la draft. C'est franchement en fonction de ton tour de pick, mais si t'es pas dans les 10 premiers, tu perds ton tour de draft.
Non, il y a tout un système. C'est fait sur contrôle par huissier, tout est filmé en plus. Alors, la théorie
tout
du complot.
Tout est filmé, mais par transmission direct, c'est ça, c'est ça qui est marrant.
Oui. Ce qu'il y a, c'est que le film, tu le vois jamais.
Ouais.
Alors, je veux bien qu'on me dise que tout est filmé.
Tu vas alimenter la théorie du complot de Mehdi. Juste pour dire aussi, parce qu'on va pas trop s'étendre sur la draft, puisqu'on aura l'occasion, je pense, de la dépioter quand on va aller.
Oh,
voilà, on aura les vrais choix.
C'est quand le 25 juin, je crois.
Oui.
Alors, en tout cas, les Spurs deuxième, clairement. Est-ce qu'il n'y a pas un petit coup à jouer autour d'un joueur grec qui se morfond, d'une équipe qui veut reconstruire, un deuxième choix de draft, sachant que a priori Cooper Flagg ne sera pas disponible, mais Dylan Harper est quand même un très très bon.
Et elle est assez homogène apparemment cette draft là quand même.
Bah elle est bien meilleure que celle de cette année.
Donc tu peux avoir des bons choix jusque 15 quoi.
Donc on peut imaginer.
Et les Spurs ils ont le deuxième, mais ils ont aussi le
14e.
Le 14e aussi hein.
Donc ils peuvent proposer et ils ont pas mal d'assets pour les.
Non mais tu proposes déjà 2, 14 et. Ouais.
Plus un petit
un intérieur non, ou un intérieur ouais. Un intérieur
bah oui
c'est possible ça va arriver.
Bon en tout cas voilà, c'est la draft, on aura l'occasion de parler des choix des équipes
et en plus ils ont de quoi assumer le salaire de Yanis, parce que Yanis l'année prochaine je crois qu'il monte
54
57
et après c'est 62
57 et 62
donc il faut avoir
on parle en millions de dollars
millions de dollars par année
excusez-moi oui pour nos auditeurs
62 méfiteux
c'est un peu violent. Bon, on passe à la dernière info, parce que c'est vrai que la rubrique info est un petit peu fleuve aujourd'hui, mais il y avait tellement de choses. Les trophées individuels de fin de saison NBA sont la plupart tendus, c'est un peu comme l'école des fans d'ailleurs, on ne comprend pas toujours tout. On va vous donner les nôtres, mais ils sont tombés pour la plupart. Pour rappel, ils sont décernés par la NBA, par un jury de journalistes sportifs et de commentaires américains et canadiens.
Il y avait du français aussi.
Oui, il y avait du français.
Hein. Rémi Reverchon, il avait voté, je crois, l'année dernière. Je ne sais pas si cette année, il a voté. Mais...
Si, il a voté. Si, parce qu'à chaque fois, il donnait.
Avec des Américains et des Canadiens.
Non. Okay.
Ceux qui retransmettent la NBA. En fait,
certains. En fait, dans chaque pays qui retransmettent la NBA, il y a un vote.
On ne nous a rien demandé, nous.
Non,
rien du tout.
Pas cool, les gars. Okay. Adam, si tu nous entends.
On est chaud. Envoie le papier, là.
Bah justement, du coup, on va prendre le pouvoir et on va vous dire qui on voit.
Exact.
On commence par le trophée MVP, mais on en a déjà parlé pas mal. Alors, on sait très bien, nos auditeurs qui nous écoutent régulièrement, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, savent qu'on a beaucoup discuté de la discussion autour de qui, entre Shai Gilgeous-Alexander de OKC et un certain Nikola Jokic, monstrueux en triple-double toute la saison. Donc l'un meilleur marqueur, l'autre en triple-double sur la saison, méritait d'être MVP. Du coup, comme on annonce, on va vous donner nos préférences.
Mais dis-toi, tu préférence Jokic.
Ouais, moi aussi préférence Jokic.
OK, on est trois à préférer Jokic comme MVP, mais ce sera
qui va l'avoir.
Ouais, a priori. Le MIP, c'est-à-dire le joueur qui a le plus progressé, la NBA l'a décerné à Dyson Daniels. Moi, je l'aurais donné à Kate Cunningham.
Ouais, moi aussi. Pour que Détroit en plus, Détroit, je l'aurais ouais.
Non, moi, c'est trophée, pas quoi. Le trophée que j'aurais donné à Détroit.
Tu mets le meilleur.
Donc toi, tu aurais donné à qui?
Dyson Daniels, il a quand même explosé ses stats. Hein.
C'était Zubac le dernier.
C'était un bon
client. Non,
dans les stats, ça se voit moins, Zubac.
Ouais.
Dans les stats,
il a moins d'évolution de stats.
Le Defensive Player of the Year, c'est-à-dire le meilleur défenseur de l'année, a été attribué à Evan Mobley des Cleveland Cavaliers.
Alors, on parle bien en saison régulière.
Ouais, c'est parce que c'est un peu.
Moi, je ne l'aurais pas donné, même en saison régulière. Moi, je l'aurais donné à Lugans Dort.
Ouais, moi aussi.
Mais il n'est même pas dans les trois.
Voilà, il n'était pas dans les trois finalistes.
C'est pour ça que je dis que c'est.
Mais c'est le côté différenciation ailier intérieur.
C'est toujours le même problème.
Toujours le même truc. Fin...
Bon, voilà.
Ah, Evan Mobley, c'est quand même pas volé.
Non, mais non, c'est pas qu'il est mauvais, c'est pas la question. Mais je pense qu'il y avait un Dort qui se coltine chaque soir le meilleur extérieur adverse. Et sachant qu'il y a quand même des clients NBA dans ce domaine. Ouais. Et puis, il en a usé des mecs. Bon, en attaque, on se souvient de sa défense sur Doncic. Mais pas que, sur d'autres.
Et puis, même au niveau international, après, bon, s'il t'élargit un peu, mais c'est pas qu'un défenseur.
Non, c'est un défenseur élite au niveau international aussi. Hein.
Enfin, moi, ça me choque pas. Franchement, Mobley.
Mais non, bon, c'est pas.
Bon, du coup, on va tous être d'accord pour le meilleur remplaçant, le sixième homme de l'année.
Voilà, il n'y a pas de question à se poser.
Donc, c'est Peyton Pritchard et je pense que ce sera tout. Voilà.
Ouais, il rentre, il met 16 points par match.
Rien à dire. En plus, même sur la série là, qu'on parlera un petit peu après.
Ouais. Oui, lui,
il paraît qu'il y a une série en cours entre Boston et New York.
Oui, pareil.
Paraît-il. Mais il fait encore le travail. Le clutch player of the year, c'est le joueur le plus décisif.
Dans les 5 dernières minutes.
Dans les 5 dernières minutes.
Un match où il y a moins de 5 points d'écart.
Et ça, c'est des statistiques en plus. Enfin, là, tu peux pas.
De toute façon, là, on peut pas lui dire. Enfin, parce que celui qui le donne pas, Jalen Brunson, surtout vu ce qu'il fait actuellement, ce sera un peu compliqué, non?
Ah bah non.
D'accord, Jalen Brunson.
Ouais. Très, voilà. Très bien.
Allez voir le visuel de l'émission qui est quand même très très beau, je trouve. Et je dis pas ça parce que je l'ai fait. Coach of the Year. Alors, qui a dit que l'équipe de Cavaliers l'a obtenu, c'est certainement pas volé, mais moi j'aurais mis Marc Degnaud.
Voilà. Ouais, bah, c'est pareil pour le résultat, les perfs des Cavs et de hockey ici sur l'année, de toute façon. Sont...
Non, parce que le coach de l'année, pour moi, c'est celui...
Joe Mazzulla.
Non, mais qui... où il fait progresser son équipe d'une année sur l'autre. Enfin,
ah, donc
le coach des Pistons, il passe d'une équipe qui gagne 14 victoires, où là, il en fait 44. Il a changé complètement l'état d'esprit de l'équipe. Enfin, il y a un vrai jeu, il y a un vrai jeu. Bon,
oui, mais Udoka, ouais, c'était des candidats. Mais...
Ouais.
Non, mais je pense que Biggerstaff, c'était...
Il y a plus de débats sur ce type
de ouais. Ouais, ils lui ont filé pour le bilan. Pour le bilan, il n'y a rien à dire. Hein.
Non, mais oui. Mais c'est vrai que pour la marge de progression et la transformation de l'équipe, Détroit, c'est une des plus belles résurrections all-time, je pense. Mais on en parlera après dans ce qui nous a plu dans cette premier tour de play-off. Et on termine par le rookie de l'année. Et je pense que tout le monde a vu Stéphane Chateau.
Ouais. Stéphane Chateau.
Ouais. Ouais, mais ça, c'est pareil aussi. Au bout de l'année, il n'y a pas de... Oui, mais il n'y a pas de surprise. Je veux dire, il le mérite largement, autant en statistiques que d'impact qu'il a sur son équipe.
Et comme
il
n'y
a rien à dire. Enfin, c'est...
Comme les résultats de l'équipe, en général, n'entrent pas en jeu dans le rookie de l'année.
Dans le rookie de l'année,
il n'y avait pas trop photo, quoi.
C'est vrai.
Bon, en tout cas, en plus, Wemby a été blessé fin d'année, donc il a encore eu plus de ballons que...
Bien sûr. Ouais, il a eu Wemby, D'Aaron Fox, donc il a terminé la saison...
C'était lui le leader de l'équipe.
Bon, c'est très bien pour l'avenir des Spurs.
C'est très, très bien.
Très bien, monsieur. Bon, je pense qu'on a été concis.
Même si la saison de Risaché est quand même très belle.
La deuxième partie de saison est très belle.
Ouais. Ah ouais, mais c'est quand même un rythme, je pense, que la NBA, il faut quand même sûrement s'y faire. Ça doit être...
D'accord, mais est-ce que c'est une saison...
Moi non plus, j'ai jamais testé, mais je crois que ça doit quand même être un rythme bizarre.
Ok, bon. En tout cas, est-ce que c'est une saison de rookie de l'année? Je suis pas sûr. Mais Ben Harper va nous parler de quelque chose de plus important, les deux faces d'un flingue. Écoutez Money Time sur Radio Graphite 94.9, une émission qui dérange, une émission qui remue, une émission qui interpelle, mais qui n'en reste pas moins essentielle à l'équilibre de notre démocratie, n'est-ce pas, messieurs ? Bah, si vous voulez pas vos micros,
exactement. Tout à fait, jeune homme.
Ok. Eh ben, alors, il est temps de passer justement à la rubrique à l'actualité chaude, puisqu'on va parler des matchs de la nuit.
made the second. It's a two-point lead for the Warriors. Heat need a three to win. 10 seconds left. Wade against Iguodala. 5 seconds left. Waiters back to Dwayne. Shoots. No, he couldn't get it off. Now fires it up. Back it in. It counts. It counts. The Heat win the game. Dwayne Wade won it for Miami.
Bon, c'était la dernière fois que Miami a gagné un match. Ah, pardon. Voilà. Nuit de Game 5 en NBA, messieurs, avec la possibilité de conclure pour Indiana contre Cleveland. Hein. Et un match charnière dans la bataille du Wild Wild West, pardon, entre OKC et Denver. On commence par l'inéluctable.
Ce qui devait arriver arriva.
Et voilà.
Ce qui est arrivé.
Donc. Donc voilà, les Pacers iront en finale de conférence. Alors.
À la surprise générale, ouais. Parce que
voilà, personne
au début des playoffs, personne ne pensait voir les Pacers en finale.
Voilà, Cleveland, deuxième meilleure équipe de la Ligue, premier bilan de l'Est, hein, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Donc voilà, est-ce que Cleveland s'est écroulé? On entend beaucoup dire « Ah oui, mais ils ont eu des blessures.
Bon, » Indiana mérite. Moi, c'est comme l'année dernière, j'ai toujours dit qu'il fallait respecter Indiana. Il faut respecter Indiana pour ce qu'ils font. Leur jeu est bien, ça ne joue pas sur un seul joueur. Enfin, là, ils nous ont fait voir les stats de toute la série des 5 matchs.
Ouais, il y a 6 joueurs.
7 joueurs qui sont entre 11 et 17 points de moyenne avec plus de 50% de shoot.
C'est terrible. Il y a du monde sur le banc.
Ouais. La balle passe de main en main. Haliburton est un vrai chef d'orchestre. Alors, des fois, ça lui arrive de passer à côté d'un match. Mais quand les playoffs arrivent, ben, il est présent.
Miles Turner, c'est impressionnant aussi.
Pascal Siakam.
Siakam,
quelle régularité. Et puis alors, des deux côtés du terrain. Quoi. C'est-à-dire
tu peux compter sur lui.
Et un coach.
C'est ça.
Carlisle.
C'est ça.
Donc, il y a un coach, effectivement. Il y a un jeu, parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense qu'on se l'est dit un petit peu en off tout à l'heure. Le plus beau jeu des playoffs depuis le début de l'année, enfin, depuis le début de ces playoffs 2025.
C'est Indiana.
C'est
Indiana.
Et le plus régulier, en plus.
Le plus régulier. Circulation de balles. Incroyable.
Le danger vient de partout.
Décalage. Mmh. Et puis dès qu'il y en a effectivement qui a son décalage, il prend le shoot et il met dedans.
Puis sur les premières séries qu'on a vues, c'est vrai que ça, puis ça rentre. Enfin, il y a le pourcentage de réussite, il est
assez incroyable.
Mais les shoots sont très bien choisis à Indiana. Hein. Ça peut aller dedans entre Topin, Miles Turner, Siakam, même Haliburton, il a pas peur d'aller au cercle.
Et là cette nuit, il met, que je vois, c'est 4 ou 5 3 points de suite à un moment, ça tombe
il
dedans.
Il fait 6 sur 10 cette nuit.
Ouais, mais je crois qu'il en met 4 de suite, quasiment coup sur coup.
Il plie la série.
Alors c'est vrai, c'est ce qui est assez rigolo avec Indiana, c'est que ils portent bien leur rythme, leur nom de Pacers, hein, puisque le pace c'est le rythme du match, et que ces Pacers ont un jeu très rapide. Et on a eu tendance à dire qu'ils ne savaient pas défendre. En réalité, ils défendent plus qu'une autre équipe, parce qu'ils ont plus de possession.
Et puis ils ont été vachement plus agressifs que les Cavs. Quoi. Les Cavs,
je pense qu'ils ont accepté que Mitchell allait mettre entre 35 et 50 points par match. Mais ils ont complètement limité les autres. Enfin, le match qui gagne, c'est quand le professeur Strauss, là, il prend feu, il met 7-3 points dans le match. Bon, bah voilà, c'est tout. Ils en ont perdu un. Mais tous les autres joueurs, ils les ont ciblés. Enfin, les intérieurs de Cleveland.
Ouais. Mobley, Jarrett Allen.
Inexistants. Ah ouais. Jarrett Allen sur la série, il est inexistant.
Il est trop soft. Enfin, il ressort à chaque fois.
Trop d'accord avec vous, pour être honnête. Moi, je trouve pas qu'Allen et Mobley, quand il était présent, aient fait une très mauvaise série. Par contre, moi, je trouve qu'il y a un vrai problème à Cleveland, c'est que quand tu joues avec deux titulaires qui sont Dean Wade et Merrill.
Ah, ils n'ont pas le niveau.
Mais ils n'ont pas le niveau, clairement, d'affronter l'escouade en plus des Pacers. On n'en a pas beaucoup parlé, mais le banc des Pacers était hallucinant. Enfin, on a dit que c'était très régulier, mais l'apport de Topin, de McConnell, Naismith, dont on n'a pas beaucoup parlé,
Neybard,
c'est incroyable.
Ouais, c'est incroyable, c'est ça.
Dès que ça sort du jeu, et même Thomas Bryant, on va rentrer.
En fait, tu as l'impression que quand il y a des changements, ça ne baisse pas le niveau de l'équipe. Et ça, il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes qui l'ont. Hein. Parce que, regarde, Garland se blesse à Cleveland.
Ouais, tout de suite.
Qui mène, les ballons, ils sont directement dans les mains de Mitchell. Puis c'est un peu débrouille-toi quand même.
Ouais,
bien sûr.
En plus, Mitchell était quand même meilleur. Il distribue mieux que l'époque Utah. Quoi. Ouais. Faut se rappeler comment c'était Mitchell avant. Enfin, là, il est quand même plus.
Mitchell, cette nuit, c'est quand même 8 sur 24 au shoot. Hein. Donc,
Plus de passes.
Il ses responsabilités aussi. On n'a pas parlé d'un joueur, je voudrais vous juste l'évoquer rapidement, Bénédicte Mathurin, qui moi, m'impressionne énormément.
Ouais,
au niveau de la grinta, déjà, c'est un défenseur très, très dur.
Je pense qu'on les a cités. Il joue à 10. Il joue vraiment à 10, Indiana.
C'est fou, ça.
Ce qui est, pas
ce qui est
le
rare
cas,
de connaître oui. 10 joueurs d'une équipe c'est NBA ça. Quand tu arrives en play-off. Ouais. Arriver surtout, à citer quasiment 10 joueurs.
Alors, tu joues à 10 souvent sur les premiers tours, mais dès le deuxième tour, ouais, tu passes à 8. Réduit. Sachant qu'après, en finale de conf et en finale, tu joues à 7. Hein. En
gros, il y a l'exception Thibodeau, mais...
Et c'est ça, c'est, 3, c'est fou. C'est, on a au moins 3 mecs qui pourraient être titulaires dans une équipe en NBA. Et c'est vrai que le collectif là, de, on a critiqué aussi Indiana en disant ah ouais, mais Indiana c'est une belle équipe qui tourne bien, c'est collectif. Mais quand il va falloir mettre les mains dans le cambouis, quand il va falloir sortir une grosse merde, il n'y aura personne. Ouais. Bah finalement, si on se rend compte. Ouais. Même Turner est capable de sortir un match à 25 points. Hein,
Miles Turner, moi je trouvais qu'il était hyper agressif en plus, hyper.
Par contre, ils ont une bonne étoile sur eux, Indiana. Ah. Je vais pas réduire.
La théorie du complot de Medieval.
Non, parce que je trouve franchement que c'est moi qui te l'ai dit que c'était la plus belle équipe des playoffs. Mais enfin l'année dernière, ils se retrouvent en finale de conf sur les deux premiers tours, ils perdent tous leurs joueurs. Là cette année, ils jouent Milwaukee, Lillard ils se pètent. Ils arrivent contre les Cavs, il y a Hunter, Garland et Mobley qui jouent sur une jambe. Bon, attention, Carl Anthony Towns, c'est
le meilleur préparateur physique, hein, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Oui, on va voir ce que c'est.
Si jamais les verres passent, ouais. Tatum, c'est fait. Hein.
Bon, ouais, c'est déjà éliminé.
Parce que le verre est dans la pomme.
Oh oui. Bon.
Je vais sortir toute seule. Le verre est dans la pomme. Ça, mon Dieu.
Arrête-toi là.
On arrête les minutes. On conclut là-dessus. Bon, on passe au deuxième match de cette nuit. Et le OKC Denver, donc les matchs sacs, on sait à quel point ce sont des matchs charnières, puisqu'ils décident souvent de l'issue d'une série. On ne va pas se mentir, OKC gagne le match, c'est mérité, hein. Enfin, Jokic sera un grand match. Mais moi, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que cette série me laisse énormément sur ma faim, en termes de niveau de jeu. J'attendais une équipe d'OKC vraiment plus impressionnante.
Le pire, c'est quoi? C'est le premier match de la série où ça vendange des airballs.
Ah non, c'est celui de dimanche soir. Là. Sur les 6 premiers tirs de Denver, il y a 4 airballs.
Mais Denver, on
se croit le jeudi à la
croix. Clippers en 7 matchs.
Merci.
Au premier tour. Donc, ce Denver, mais je trouve qu'ici, avec une semaine de repos.
Ouais, ils auraient dû être plus frais que ça.
Alors justement, les semaines de repos, on va en parler, parce que tous ceux qui ont eu une semaine de repos, le premier match, ils l'ont perdu. Hein.
Ah ouais. Oui, c'est une théorie qui se confirme les semaines de pont, puisque vous savez que c'est plus difficile de travailler quand on a eu un jour de congé dans la semaine en plus.
Ah ouais.
C'est une théorie qui doit s'appliquer aussi aux
sportifs de haut niveau. Quoi.
Ouais,
et bon, du coup, pour revenir sur la série, alors Jokic ne fait pas des stats de malade à part cette nuit
oui,
mais vrai. Cette nuit, il plante plus de 40. Mais moi, je trouve que Denver, ils sont très vaillants. Alors, je dis pas qu'ils vont gagner. J'aimerais beaucoup qu'ils gagnent le match 6 pour avoir un match 7.
Là, ouais, je me tâte à acheter un petit maillot de Gordon. Quoi. Mais parce que quand même, Aaron Gordon...
Il est clutch.
C'est incroyable. C'est
et puis, l'intensité du mec.
Mais je trouve que Denver est très vaillant. En fait, ils jouent avec leurs armes. Et le problème, c'est que les matchs sont trop longs. 4 cartons, c'est un peu trop long. Ils n'ont pas de rotation.
Est-ce qu'on va parler de l'absence de coach aussi, quoi? Parce que Delman...
Coach, il s'appelle
Jokic.
Et ouais, voilà. On est d'accord.
Non, mais il joue beaucoup et il est obligé de jouer beaucoup. Et moi, je trouve que c'est là qu'il est super impressionnant et que pour moi, c'est mon MVP. C'est qu'il peut avoir j'y arriverai pas.
Voilà,
dis-le.
Isaiah.
Graham sur le dos. Il peut avoir Jalen sur le dos. Enfin, le mec, il est impressionné par personne. Oui. Et il n'y en a aucun qui l'arrête. Non. Et moi, je trouve ça incroyable.
Ils sont sautés, franchement. Toujours sans sauter.
Ouais, non, mais et puis il joue à son rythme, il arrive à imposer son tempo, il peut shooter de partout, c'est une menace constante.
Le toucher qu'il a, ouais.
Bon.
Et il sait faire jouer les autres aussi, je veux dire, il a pas peur de filer la balle à porteur, et je pense qu'il l'encourage, je pense que c'est un super coéquipier ce mec-là.
Enfin, je pense ça s'était vu avec quand Westbrook loupe son double pas, là.
Oui.
Et bien le match d'après...
Et il lui redonne la balle.
Et c'est lui qui met le panier décisif.
Bah oui. Après, il y a un joueur aussi qu'on n'a pas toujours évoqué pour les bonnes raisons, mais Jamal Murray, on constate, il fait partie de ces joueurs qui
s'est mis en mode play-off. Quoi.
C'est vraiment des joueurs ultra talentueux. Moi, je trouve que c'est vraiment un régal de regarder des joueurs. J'en ai déjà parlé parce que je trouve que c'est esthétiquement, c'est un des meilleurs basketteurs. En tout cas, c'est un des plus beaux jeux de la NBA pour moi. Il nous sort des moves à chaque fois qui sont...
Et c'est un joueur qui sait jouer à 3-4 mètres du panier. Donc, ce n'est pas qu'un shooter à 3 points. Ce n'est pas un mec qui va copanier. Et il joue dans la zone. Et, ils sont pas beaucoup, hein. Quand tu regardes bien en NBA, ils sont pas beaucoup à savoir
le tir à mi-distance. Ouais. Ouais.
On défend ça, mais en même temps, c'est OKC qui mène 3-2, les gars.
Mais bien sûr.
Ah oui.
Mais bien sûr. Non, mais je trouve que OKC, moi, je les voyais plus forts et je pensais qu'ils allaient
ils imposent
être
moins,
plus impressionnants. Ouais. Ça.
Surtout que je me disais, ils vont rouler sur l'Ouest, d'autant plus que les autres équipes vont laisser des cartouches dans leur jeu
respectif.
Et finalement, je me dis, attention. Ça nous amène sur la série qui est en cours.
Non, parce qu'il y a un dernier truc, c'est que Denver, ils ont déjà joué 7 matchs sur le premier tour.
Ça.
Là, ils en sont déjà à 5.
C'est pour ça que je dis que...
Et moi, ce que j'aimerais beaucoup, peut-être ils vont sortir sur le match 6, mais aller au match 7 et... Et moi, je dis, celui qui gagne le match 7, il est MVP. Ça vous va ou pas?
Ouais. Ça se joue sur un match.
Ça marche, ok. On va envoyer nos suggestions à
Adam.
Adam.
Ok, Adam, t'as beaucoup de choses à faire. D'idées à
venir. Note pour plus tard. Détail.
Adam, c'est le commissionnaire de la NBA, hein, le chef, hein, pour ceux qui.
C'est le big boss.
Le point sur les autres séries, et justement, tiens, Minnesota qui mène 3-1 contre Golden State. On sait que, bon, a priori, Stephen Curry reviendra difficilement.
Il jouera pas le match 5, c'est déjà annoncé. Il jouera le match 6 si la série retourne à Golden State.
Ouais, parce que là, du mal à voir.
Pour moi, il gagne.
Pas qu'il va sortir 3 matchs de suite.
Ouais, ils vont les...
Moi, je serais Minnesota, je les prendrais au sérieux cette nuit. Voilà,
pour
clôturer
finir
la série, laisser les deux autres se
castagner
et retourner au frais. Parce que c'est pareil, ils ont joué que 5 matchs au premier tour contre les Papy Lakers. Ouais. Là, ils jouent contre les Papy de Golden State. Il faudrait qu'ils
ça ressemble la série. C'est vraiment symétrique, les tableaux des Pacers et des Wolves.
Minnesota, ouais.
Ça peut être vraiment, enfin c'est assez symétrique.
Et tu es de finaliste, ouais, surprise.
Bonne tête de une finale Minnesota Indiana. Ouais.
C'est pas super vendu.
Adam, là, il va pas être content. Hein.
Adam ne va pas aimer.
Adam, il va pas être content.
C'est vrai. En tout cas, bon, malgré les exploits intermittents de Butler, de Kuminga, etc., on sent quand même.
Kuminga, il est fort, hein, parce que vu comment il a été.
Oui, parce qu'il a été placardé.
Maltraité, entre guillemets.
Ouais, mais je crois que Pascal a employé le bon mot, c'est intermittent. Sur le dernier match, Kuminga, à la mi-temps, il mène de 2 points, mais c'est Kuminga qui fait tout le match. Butler, en deuxième mi-temps, je crois qu'il met 4 points.
Ouais, mais arriver déjà à se remettre dedans quand t'as été comme ça.
Ah oui, quand t'as été benché
ça, et qu'on t'a dit clairement, tu joueras pas. Bah, faut être dans sa tête aussi, faut être fort.
Par contre, Minnesota, c'est très très fort. C'est vachement
équipé. Randle fait ses meilleurs playoffs de.
Randle, on en parlait tout à l'heure.
Et on parle du nombre de joueurs. Pareil, Minnesota, il joue à 9. Ouais. Il joue pas qu'à 6 ou 7. Il joue vraiment à 9. Et je pense que c'est vraiment un pouvoir qu'ils ont. Bon, après, Golden State, ils sont un peu courts. Hein. Oui. Sur le banc, Looney, il est massif, il est grand, mais. C'est mince, c'est pas fait pour toucher le ballon, quoi.
Et oui.
Ouais, qu'ils reprennent Jordan Poole.
Non, mais après. Ah on
déjà
est
déjà.
Ah,
qu'est-ce qui se passe?
De parler.
Il y a une grève.
Laissez parler,
quoi
Bruno.
Quoi?
Il y a des gens qui manifestent devant le studio.
Parti,
le Draymond Green, mais non, c'est un autre Green.
Green. Alors, t'écoutes, Bruno. Lâche ton fiel.
Oh, mais non, mais le fiel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, je suis plus blasé en fait qu'énervé, quoi, parce que enfin. Déjà, est-ce que bon, 3-1 en play-off, c'est synonyme de qualification? Donc, quand on perd 3-1, quand on perd, non. Statistiquement, c'est 96% des équipes qui mènent 3-1 qui se qualifient. Bon, historiquement, il y a 8 équipes qui ont réussi à se qualifier. Bon, Boston l'a fait 2 fois, en 81 et en 68. Est-ce que c'est un bon signe?
Quand on arrive sur ces stats, quand même, on cherche vraiment à se rassurer.
C'est clair.
J'en suis là, mon ami, j'en suis là. Et puis, bon, rappelons au passage qu'il n'y a aucune équipe qui a jamais remporté une série à 3-0. Bon, on se rappelle de Miami, 2023, contre
Boston.
Ah, mais bon.
Et aller au match 7. Hein.
Moi, ce que j'aimerais surtout, le match 5, là, ça serait surtout une grosse réaction d'orgueil, quoi. Parce que là, il faut jouer presque. Je ne sais pas comment il va les motiver, Mazzulla, là, mais arriver à leur dire faut jouer pour Tatum ou je ne sais pas. C'est une grosse réaction, comme après le match 3, mais en pire, quoi. Un truc un peu plus.
Déjà, Porzingis, il faut qu'il joue.
Mais lui, avec son virus inconnu, là, qu'ils n'ont toujours pas identifié.
Ouais, ils ne savent pas ce que c'est. Ils disent que c'est un espèce de Covid qu'ils ne savent pas.
Ouais, c'est un truc bizarre, apparemment. Puis c'est vraiment. Il y a des hauts et des bas, quoi. Là, le dernier match, il joue 20 minutes, mais il est transparent.
Cramé.
Il n'est pas là, quoi. Et bon, entre donc, le virus de Porzingis, la perte de Tatum pour la fin de saison et peut-être la prochaine, et puis même. J'aime cette équipe, j'ai quand même du mal à y croire. Il faut quand même me forcer, que ce soit pour aller en finale de conférence ou ensuite en finale NBA. Parce qu'on avait déjà vu des signes un peu négatifs contre Orlando. au niveau du jeu, par exemple, physique, où il se plaignait que c'était trop physique, et Magic, mais il y a un moment, enfin, et en plus, l'arbitrage, on a bien vu qu'il y avait
physique,
une...
Hein.
Bah voilà, mais
là,
à un moment,
là, tu peux
il siffle beaucoup plus. Hein.
Bah ouais, mais faut quand même, mais c'est les play-offs, quoi. Les play-offs, ça envoie quand même un peu bien plus, sûr. Quoi. Ouais. Et là, on voit quand même un manque d'engagement, et ça se voit encore plus contre New York. Et donc, il y a ce qu'on a en général dit, c'est qu'il y a quand même un excès de confiance, je pense, qui peut leur coûter cher face à New York. Et pour le moment, on a évoqué aussi dans le groupe, c'est vrai qu'on a évoqué, j'avais repris ça, là, ils sont une parodie d'eux-mêmes, c'est ce que Mehdi avait...
Oui.
J'avais dit, parce qu'en fait, tu arrives à un point où tu parais tellement au-dessus de l'adversaire, tu mènes de 3 points, de 20 points, de 20 points, 20 points au premier
20,
match.
20 à 14.
20, 20 et 14.
Ils perdent de 3, le deuxième, pareil, 20, on a dit 20, ils perdent de 1 point.
Ouais.
Et ça manque d'investissement et peut-être d'adversité. Alors, est-ce que c'est pas l'adversité de la conférence Est? Parce qu'on se voit que les Cavs, ils se font sortir à 4-1. Est-ce que les mecs, ils ont roulé sur la conférence Est?
C'était peut-être un peu tronqué, une image tronquée de la compétition, en fait, en se disant, on est arrivé, on va y aller.
Et quand t'arrives vraiment...
En saison régulière, ils les ont battus 4-0.
Ouais.
Ils ont gagné les 4 matchs en Boston.
Ah, ouais.
Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il manque réellement d'un vrai coach à Boston. Enfin, le mec, il est payé des centaines de milliers de dollars, et la seule tactique qu'il a, c'est, les gars, on donne la balle à Tatum, il drive, s'il n'y arrive pas, il ressort la balle, on tire à 3 points. Et c'est tout. Et c'est juste ça. Pendant 4 matchs, le mec, il n'y a aucun ajustement. Il se fait démonter par Brunson tous les 4e quart-temps. Le mec, il ne s'ajuste pas.
C'est ce qu'on dit. Enfin, il va falloir soit que les joueurs ils élèvent leur niveau et Joe Mazzulla, parce qu'il n'y a pas que les joueurs. Il faut que Joe Mazzulla aussi il élève son niveau de jeu. Quoi. Parce qu'il connaît le fonctionnement de Thibodeau. On connaît.
Il a été champion. On sait que Mazzulla, c'est quand même un coach qui sort d'une bague quand même. C'est-à-dire, les Boston Celtics sont champions NBA.
Là, par contre, t'as l'impression que tout s'effondre. Quoi. Ouais. Et une espèce de château de cartes où les clés. Enfin, je sais pas.
C'est ça. Et en plus, le pire, c'est qu'on voit les matchs, la physionomie des matchs, mettre des runs. Et derrière, t'as l'impression que les Knicks sont vraiment dans les cordes et qu'ils reviennent du diable Vauvert à chaque fois pour se remettre dans la partie. On a l'impression que Boston garde cette marge et ce surplus de talent.
Ils s'arrêtent de jouer. Objectivement.
Et puis finalement, au cœur, et c'est là que je veux prendre la défense des Knicks, c'est que c'est une victoire aussi des Knicks. Quoi. Les
Knicks mais bien sûr. Ouais,
la culture, un peu Knicks, dur au mal. Et puis en plus, ils sont moins dur au mal que l'année dernière. Parce que c'était encore presque pire l'année dernière.
Oui, bien sûr.
C'était...
Non, puis les Knicks, ils jouent absolument leur jeu. Moi, j'ai rien à dire sur les Knicks. Hein. Franchement, ils vont jusqu'au bout, ils y vont. Enfin, quand tu vois que...
Mais équipe au départ conçue pour gêner Boston. On n'y a pas cru pendant saison
régulière. Et au final...
Comme quoi, le basket des playoffs est un autre basket. Et c'est là où vous dites, justement, il n'y a pas d'adaptation de la part du coach. On savait que les rythmes allaient ralentir, on savait que les matchs n'allaient pas finir.
On a l'impression qu'il découvre. Quoi.
Donc lui, effectivement, c'est ça le problème.
Et puis moi, ce qui m'énerve dans le dernier match, c'est que tu as Derrick White, il t'en met un, il a 3 points, il t'en met 1, 2, 3, 4. Le mec, il est à 5 sur 5, tu lui donnes plus le ballon. Ah, Tatum, moi, je veux bien. Après, je ne sais pas si l'effet de que Tatum il soit blessé, ça va peut-être pas être une piqûre et que les mecs ne vont pas s'y mettre.
Peut-être.
Je donne la main à Drew Holiday.
Moi, je ne les enterre pas pour ça. Parce que je pense qu'il peut y avoir peut-être un sursaut d'orgueil, que ça peut passer peut-être contre New York, parce que c'est ce qu'on dit aussi, le cœur du champion, jamais sous-estimé. Mais après, tu arrives quand même, même si dans le meilleur des cas, tu arrives à remonter le 3-1 et tu arrives en finale de conf, on revient contre les Pacers. Quoi.
Oui, mais respecte le basket au moins. Arrête avec tous tes petits là, derrière la ligne à 3 points. Arrête ça ne marche pas.
Non, ça
marche
pas.
Remets du grand.
Reviens aux bases. Quoi.
Remets du grand à l'intérieur. Tu joues avec les deux grands.
Notre ami.
Même Cornette. Ouais. Cornette
ou Hauser. Enfin, les mecs, il y a un moment.
Et tu joues à l'extérieur avec Brown, avec Holiday et Derrick White. Et puis Brown, il n'y a pas, mais il va falloir qu'il se bouge le cul. Aussi, hein.
Non, parce que le talent.
Et apparemment, c'est le genou aussi, quoi.
Ouais, mais bon, enfin,
c'est enfin ils ont tous des pépins. Aujourd'hui.
C'est ça aussi que tu vois la différence avec l'année dernière. Entre un truc où ça se passe super bien, mais bon, il y avait que le cas Porzingis.
Oui, en finale, il joue pratiquement pas.
Bah ouais. Mais tu te dis, ça se joue à. Bah voilà, de toute façon, ils étaient déjà trop justes. On l'a bien vu tout le long de la saison au niveau effectif et tout ça. Et puis, un qui se blesse, deux, et puis bon, voilà quoi.
Mais ils auraient tous la niaque et l'envie d'un vieux comme Al Horford. Franchement, Boston, même sans Porzingis, ils y arriveraient quoi.
Non, mais
parce que là, il faut quand même s'imaginer aussi que ça peut être le dernier match de Tatum avec Al Horford. Parce que là, cet été, de toute façon, ils vont arriver.
Salary cap, ils explosent tout.
Ils vont dépasser les 500 millions de dollars. Mmh. C'est un record au niveau de la. Taxes, les salaires, plus la luxury. Donc, de toute façon, cet été, il va y avoir
des moves.
Donc à leur Ford, je trouve l'idée, Sam Hauser, Porzingis.
En gros, tu es en train de nous dire que Giannis, il sera pas vert.
Je le crains. Le géant vert. Oh, oh, oh.
Non, mais c'est.
On peut conclure rapidement, Bruno, ou t'as fini?
Non, mais voilà, c'est fini.
Moi, juste encore un truc sur les Knicks. Ouais. Sur les Knicks, franchement, alors Thibodeau, on l'a taillé toute l'année. Mais le mec, quand même, il est dans une perspective, il n'en change pas. Ouais. Par contre, lui, il fait des ajustements. Ouais. Mais les mecs, ils jouent à 8, ils joueront à 8 jusqu'au bout.
Ce qui est toujours impressionnant, c'est l'adhésion des joueurs.
Oui, c'est ça.
Il y a Nanin, je crois que c'est Michael Bridges pendant la saison qui a dit oh, peut-être qu'on joue un peu trop, machin. Tu l'as plus réentendu, le mec. Hein.
Non, enfin, dans le vestiaire, ça a dû.
Mais cette équipe, si elle n'explose pas physiquement, on leur souhaite, elle a une vraie carte à jouer. Parce que c'est
là, il y a une ouverture, je pense.
Et tu te rappelles, en début d'année, on a fait qui est vainqueur entre Minnesota et New York du trade entre Randle et Karl Anthony Towns. Bah, je pense que les deux sont vainqueurs.
Pour l'instant, ouais.
Les deux sont gagnants. Ouais. Parce que Minnesota, ils ont besoin des points énormes et de la masse physique de Randle.
Ce serait quand même très rigolo qu'on ait
les deux
Minnesota New York.
Et en plus, les deux jouent sur le même poste, ils risquent de se prendre.
Ce serait excellent. Ah. Ok, messieurs, on passe à la dernière rubrique. Messieurs, j'aime pas, comme le chantait si bien Eddie Mitchell, paix à son âme.
Pourquoi il est pas mort?
Presque.
Le pauvre.
Okay. Ça va toi?
Ça va bien, ouais, j'ai une bonne journée aujourd'hui.
Ah, ce qui est bien, c'est qu'on va se faire des amis là pour
j'adore Eddie.
On espère qu'il écoute pas. Mais non.
Donc on vous propose, dans cette petite rubrique, de retourner, de faire un petit feedback sur le premier tour des playoffs. J'ai
pas dit
le tour des playoffs en vous proposant. En vous demandant, les mecs, une chose que vous avez aimée, une chose que vous n'avez pas aimée. On va commencer par ce que vous avez aimé. Alors, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui veut commencer?
Vas-y, Bruno.
Ouais, qu'est-ce que j'avais noté dans mes notes
Bon, bah, moi, j'y vais, moi.
Ouais, vas-y.
Moi, le truc que j'ai aimé, je le pique à Mehdi, c'est le retour aux affaires de Détroit.
Ah, ouais. Detroit Basketball.
Bah, j'avais noté le match 5 de notre ami Rudy Gobert contre les Lakers. Ça m'a fait bien plaisir qu'il ferme la bouche de Luka Doncic.
Fermé quelques-unes.
Ouais.
Ouais. C'était bon ça. Small ball payé très très cher.
Après, qu'est-ce qu'il est encensé par son coach Rudy Gobert là sur la défense alors où il fait pas de stats.
Il fait pas de stats.
C'est bien que la vie, c'est les stats et tout. Mais alors quand il est en défense, mais même là sur la demi-finale de conf,
le nombre de shoots que les mecs veulent pas prendre. Quoi.
Exactement. Ouais, c'est ça. Alors on montre toujours dans les highlights les shoots qu'il prend parce que c'est bien plus facile et c'est plus vendeur. Mais alors quel défenseur.
Enfin, arriver à shooter sur Rudy Gobert, c'est quand même un exploit. Enfin, c'est comme dunker sur Wembanyama quoi.
Chapeau. Non, franchement, quand ils y arrivent, il y a rien à dire. Mais franchement, Rudy Gobert, bravo.
Bravo, ouais.
Du coup, médite-toi un truc que t'as aimé.
Moi, j'ai aimé Détroit qui n'a jamais baissé les bras. Je les ai trouvés très vaillants. Franchement, respect aux Knicks, pareil, qui ont su bien les mater parce qu'il y avait vraiment de l'envie à Détroit.
Ah ouais, c'était
vraiment bien.
C'était pas une série cadeau pour le premier tour, en tout cas, Détroit.
Exactement.
New York.
Après, ce que j'aime, je me rejoins un peu Bruno, c'est Minnesota qui a explosé les Lakers, c'est leur star system. Là, toujours faire amener des vendeurs de maillots. Essayer de construire une équipe avant de vendre des maillots. Et ce que j'ai aimé, ce que j'ai mis, c'est Indiana et leur jeu fluide à 10.
Indiana,
franchement, Indiana.
Moi, j'en ai vu une dernière. Le retour de Kawhi Leonard en haut de la chaîne alimentaire.
La fin de série est tellement.
Sur les deux premiers matchs, c'est ça que tu veux dire?
Non, il a bien joué, du début à la fin, Kawhi Leonard.
Non, pas du début à la fin.
Vous êtes dur.
Il y a un match où il fait 16 sur 18 au shoot qui est incroyable. Ouais. C'est le match qu'il gagne.
Il pouvait tout rentrer.
Et puis.
Non, le fail des Clippers, c'est plus sur les épaules de James Harden.
Ouais, mais c'est. Ouais.
Mais bon, vous savez que j'aime bien tirer sur James Harden.
C'est les playoffs de James Harden en général.
Bon, on parle du coup du côté de ce que vous avez pas aimé. Allez, c'est parti.
qu'on n'a pas aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai pas aimé.
Ce que j'ai détesté,
les derniers matchs des Clippers.
Fucking arbitrage de Détroit. Là.
Ça, c'est un what if.
Ouais, c'est là. Il serait reparti à New York à 2-2. Bon, on va pas refaire l'histoire. Mais...
Ouais, mais c'est vrai que ça peut fausser toute une série.
Alors, bon, voilà.
D'arbitrage comme ça.
Le système d'arbitrage américain a dit qu'il s'excusait, qu'il y avait faute. L'arbitre. Bon, ça change rien. Enfin, les trois lancers francs, il les a pas eus. Et puis, bah, le match, il est.
Je sais pas si c'est une règle comme ça en Europe, ça. Mais c'est parce qu'en fait, il a pas sifflé qu'il pouvait pas regarder la
vidéo. C'est ça, exactement. Ils peuvent pas revenir quand le. En fait, tant qu'il y a pas eu. Il aurait sifflé la faute. Il aurait pu aller regarder s'il y avait faute. Mais vu qu'il a pas sifflé, il va pas l'avoir.
Ouais, il peut pas.
Ouais, enfin. Bon, bref, ça, j'ai pas aimé.
Moi, j'ai pas aimé. Alors, je le dis, le nouveau choc de Jalen Green avec Houston. Jalen Green, toute la saison, il a commencé très très mal, de toute façon, clairement. Il fait un début de saison pourri. Ensuite, il brille comme il fait souvent à partir du mois de février. On se dit, ah, oh, ça y est, Jalen Green, c'est un super joueur. Et moi, le premier en disant, ah, il a pris un peu de pont dans la tête. Hein. Même s'il shoot à 40% au shoot. Il apporte plus, etc. Mais alors, sa disparition contre Golden State sur toute la série, à part un match où il claque 36 points, je crois, un truc comme ça, ou 38, le reste, c'est 7 points de moyenne, soit si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est une catastrophe. Jalen Green, franchement. Et là, se pose la question, clairement pour Houston, servez-vous de lui comme monnaie d'échange? Prenez Bénédicte Mathurin, là, on a échangé sur le groupe à propos de ça. Tu prends ce mec-là à la place de Jalen Green, Houston ne se fait pas éliminer au premier tour.
Il y en a quand même un qui est annoncé un peu plus aux Rockets que Mathurin. KD, il est quand même fortement annoncé aux Rockets l'année prochaine. Hein.
Ouais.
Bah, ils ont du salarié.
Ça sera peut-être ça, hein, la monnaie d'échange. Ouais.
Moi, ce que j'ai pas aimé, la série, c'est marrant parce qu'on est un peu tous les mêmes. Là. Les Warriors, Houston, j'ai pas aimé. Même si c'est parti en match 7, à regarder, c'était pas top. On attendait souvent quand le premier entre Dylan Brooks et Draymond Green allait péter un câble. Ils se sont crachés.
C'est pas du très beau basket. Série.
Non, c'était dur même... en plus, sans être dur, parce que j'aime pas les faux durs, moi.
C'était très stéréotypé, moi, je trouve. Même le jeu de Houston, là, quand il file la balle à Sengun à l'intérieur, qui fait 18 pieds de pivot, qui rentre dans l'un, et puis ça marche une fois sur trois. C'est pas du basket.
On est d'accord que Houston, ça dépend de Van Vliet, en fait. Le jour où il met dedans, tu gagnes. Le jour où il met pas dedans, tu gagnes pas.
Sauf que le backcourt des Rockets, on en avait parlé avant le début des playoffs, qui était très inquiétant au niveau de l'adresse, ça s'est confirmé.
Exactement.
De toute façon, ils n'ont jamais réussi à être à droit à dos en même temps. Donc,
Et le dernier truc, moi, c'était le match 7 entre Denver et les Clippers. En plus, c'était un dimanche soir, on était bien.
Purge. Ouais.
Franchement, j'étais assis là, j'attendais que ça. Et puis, à la fin du premier quart-temps, on avait compris quoi. Donc, j'étais déçu pour un match 7. Mais de toute façon, les match 7, c'est ça.
C'est soit ils tirent la bourre et à la fin c'est légendaire, c'est de ouf. Ouais, j'ai mis aussi quand même ce qui m'avait pas aimé, c'est l'isolement de Giannis quoi. Je trouve que c'est quand même il est dans le trio, on n'en parle pas non plus parce qu'il y a
renforcé par la grave blessure de Lillard que j'ai
pas vu. Shai et puis Jokic qui sont au-dessus du lot, mais c'est quand même lui le troisième dans le pour être le MVP et on le voyait, mais l'isolement du mec, enfin il finit encore sa saison à 30 points, 12 rebonds.
Ouais, mais il jouait avec Kuzma donc voilà. Tout est dit dans cette phrase.
Mais lui, il s'est bien gardé son calme, hein, parce que même à la fin, là,
avec
la série,
le père
de Haliburton, bravo à lui, franchement.
Il aurait pu l'exploser.
Il a parlé calmement. Ouais. Et c'est là que tu vois qu'il y a un problème dans l'équipe de Milwaukee, parce qu'il n'y a aucun de ses coéquipiers qui est venu l'aider.
Ouais, ouais.
Il y avait tout. Il y avait tout Indiana autour
Ils attendaient qu'il lui pète la gueule, mais.
Ouais. Ouais, ils voulaient qu'il parte. Moi, je termine sur le dernier truc que j'ai pas aimé, c'est la prestation du Miami Heat, dont je suis fan, vous le savez. Qui s'est sorti du play-in. Alors, je pense que ce que je disais tout à l'heure, je pense que le Miami Heat croit que le play-in est une compétition en part entière. Donc, ils sont champions du play-in, mais ils sont sortis pour rien parce qu'en plus, ils ont perdu leur 15e choix de draft à cause de ça, qu'ils ont dû laisser au Casey, si je dis pas de bêtises.
Ah ouais?
Donc, t'as tout perdu. Tu viens, tu te fais vendanger all-time par les Cleveland Cavaliers 4-0 avec les fesses bien rouges. Et derrière, en plus, t'as Pat Riley qui dit ouais. On va reconstruire autour d'Adebayo et de Tyler Herro. Mec, ça fait 5 ans que c'est ça, que tu reconstruis autour de Tyler Herro.
Et puis, il n'y a plus trop de monnaie d'échange.
Il n'y a plus rien de
Ouais, mais il y a du salarié.
Hein. Bouton rouge.
Il y a un peu de salarié cap. Ouais.
OK.
Un peu de salarié, mais je ne sais pas s'ils vont réussir à attirer une grosse pointure. Parce que tu as un meneur, tu as un poste 4-5.
Et il te faut un meneur. Il faut qu'ils arrêtent de chercher des trucs. Ils ont besoin d'un mec qui crée du jeu à Miami.
Bah, qui crée du jeu, et puis surtout, un mec aussi qui plante des points. Hein.
Tout à fait.
Parce qu'ils ont quand même du mal à.
Ah. J'ai l'alerte parce que je m'énerve, je monte.
Ah, tout va bien, la vie est belle. Ouais. Tranquille.
Ok, c'est l'heure de notre dernière partie. On va terminer avec notre buzzer beater et on est bien dans les temps, messieurs. Bravo.
Yeah.
Portland has a timeout. Lillard, a chance to send the Thunder home. Lillard, long range three. And it's good!
Et malheureusement, Lillard, on n'est pas prêt de le revoir sur un terrain. Lui aussi, pareil, rupture du tendon d'Achille. Donc, effectivement.
C'est des joueurs qui commencent à être âgés hein, quand même. Ils se blessent, bah, ouais. Ils vont avoir du mal à revenir.
Ouais. Buzzer beater du jour, messieurs. On n'en a pas parlé dans les news parce que je trouvais, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'il fallait parler spécialement.
Ouais, faut faire.
Départ de El Refé, désormais. comme ça.
Ah, il m'a fait mal au cœur, moi. Ouais, la conférence de presse.
Bah, c'était beau, quoi.
Ouais,
avec Duncan. Et Duncan.
Ouais. Voilà. Donc deux légendes qui encadrent. Une légende, si ce n'est la plus grande légende du coaching, en tout cas, un des coachs qui aura marqué le plus l'histoire de la NBA après voilà. 29 saisons, messieurs. 29 saisons, j'imagine.
Et apparemment, il l'accompagne, tu vois, il l'accompagnait aussi en rééducation.
Oui, c'est
Ginobili, Duncan, façon, ils étaient tous les jours avec.
Tous les joueurs.
C'est une famille. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est
une Spurs family.
Famille. Hein,
c'est qui Dejounte Murray qui était venu spécialement ouais. alors qu'il ne joue plus aux Spurs quoi.
On n'a pas parlé de Tony Parker. Je trouve qu'on en parle beaucoup de Tony Parker en dehors pour des conneries, mais je trouve que là, on l'a pas vu.
Non, il était à la montagne, j'étais dans un chalet, peut-être, ou un truc.
C'est désolé, hein, mais...
C'est moche, tu sais pas ce qu'il faisait. Enfin, non, il était occupé.
Il a acheté une fuite, une station de ski.
Il a acheté. Vous connaissez pas la vie des gens, les mecs.
C'est vrai, ouais. Il a un peu une équipe qui est... Enfin, voilà, qui est une grosse équipe.
C'est moi qui suis obligé de vous modérer.
C'est vrai que c'est le monde à l'envers.
En sucette. Bon, du coup, messieurs, la question qui tourne autour de ça, c'est est-ce que c'est lui le plus grand entraîneur de tous les temps ? Du coup, pour ne pas y répondre directement, moi, je vous propose d'évoquer trois entraîneurs mythiques. Greg Popovich, dont on vient de parler.
Ouais. Phil Jackson,
évidemment. Et Red Auerbach, même si c'est une autre légende d'une autre époque.
Une autre époque, hein, ouais. Mais c'est assez similaire, c'est assez rigolo. Parce que Red Auerbach, c'est 20 saisons, 9 titres.
Pas mal.
Et tu vois...
C'est un titre sur deux.
Popovich, c'est 26 saisons, 5 titres.
Ah oui, c'est similaire.
Non, c'est pas trop similaire.
Non, mais. C'est Phil Jackson qui a 20 saisons. Bah, lui, il a 11 titres aussi.
Bah, oui. Alors, Phil Jackson est imbattable. Parce que, en fait, Phil Jackson, c'est 12 finales.
Et puis, sans parler joueurs en plus. Les bagues. Là, c'est bagues assez cumulées, je sais plus. Je sais plus s'il est 11 titres.
Il a été champion avec New York.
Ouais, deux fois
avec New York.
New York.
Ouais, mais il en gagne 6 avec les Bulls et 3 avec les Lakers.
Ouais, donc.
Bah alors, justement, les gars, bagues,
c'est 11 joueurs.
Je suis allé voir un pote qui s'appelle ChatGPT et je lui ai posé la question du coup.
Oula.
Donc, les titres NBA de Greg. On va commencer par Greg Popovich. Greg Popovich, c'est 5 titres 99, 2003, 2005, 2007, 2014. Et là, rien que sur ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'en 15 ans, en fait, en 15 ans, il a chopé 5 titres. Et salut José. 5 titres en 15 ans, c'est quand même énorme parce que ça veut dire aussi qu'il a su s'adapter à peu toutes les configurations de basket. On a connu le basket très fermé des années 90-2000, début 2000, mais aussi le jeu très flamboyant des Spurs quand ils ont battu Miami en 2014, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais. Alors, tu dis tout ça, mais moi, ce n'est pas ce que je retiens de Popovich. Tu vois, je retiens un coach un peu particulier, rien que dans sa méthode de jeu. Enfin, il y avait vraiment un système de passe avec son équipe, avec Ginobili, Parker, Bowen, Duncan et tout. Tu voyais le ballon passer de main en main jusqu'à trouver le meilleur shoot. Bon, après, quand tu as Duncan dans ton équipe, c'est quand même plus facile, il attire un peu la défense. Mais tu vois, c'est ça. Et toute sa personnalité à côté. Chaque conférence de presse, tu te demandais s'il allait sortir une dinguerie. C'était vraiment un coach rigolo. Et la fois où Kawhi Leonard il revient avec Toronto,
exactement.
Et il se fait huer sur les lancers francs. Alors
avec les Clippers, c'était récemment. Hein.
Et il se fait huer dans la salle et il prend carrément le micro de l'ambianceur pour demander à ce qu'on le
cible. Ça ne ressemble pas.
Exactement.
Ce n'est pas nous.
Moi, j'ai trouvé ça, c'est un mec. Voilà,
ses avis sur la politique, sur Trump, il a défoncé.
Vous avez complètement raison, les mecs, parce que là, je suis en train de parler statistiques, mais en fait, on s'en branle des statistiques.
L'homme est génial.
L'homme est incroyable. C'est vrai.
Et il paraît que même, il adore voir ses anciens joueurs. Toi, il est allé en Serbie. Il faut écouter, il y a un podcast qui est vachement intéressant là, sur Step Back, sur l'équipe. Là. Ils ont fait une spéciale Popovich où ils te racontent toutes les anecdotes et tout. Et, c'est vraiment un mec hyper intéressant, quoi. Sur, enfin,
hyper apprécié, hyper respecté.
Il est arrivé aux Spurs, il a mis cette culture de la famille, quoi.
Donc, d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez sur Greg Popovich, mais en fait, la plupart des entraîneurs aujourd'hui en poste en NBA sont formés, ou des anciens. Au moins 5, je crois, actuellement.
Steve Kerr.
Ouais, sont des mecs qui sont passés par l'école Spurs de Popovich. Donc,
Non, puis ça sent quand tu vois Steve Kerr, tu vois quand même qu'il a un peu la même mentalité à protéger ses joueurs, à toujours respecter.
Un peu trop parfois.
Ouais, mais. Fin...
La droite de Draymond Green sur Jordan Poole, je suis pas sûr que Popovich, il aurait pas réglé le problème autrement.
Ah, je pense que si, mais. Mais en fait, moi, de ce que je retiens de Popovich, c'est un super entraîneur. Il arrive à mettre des tactiques en place. Son jeu était facile à regarder. Mais en plus, l'homme était
une personne.
Le Hakechak.
Ah, le Hakechak du Game 1 en 2000.
Début de la saison, là.
En 2000, ouais. 2000.
Quand ils reprennent la saison, il fait 5 secondes, et puis il demande à son joueur de faire Hakechak.
Et il lui lève les deux pouces, ouais.
Et puis il fait un grand signe à Shaquille O'Neal, qui est mort de rire aussi, parce que c'est lui qui a inventé cette tactique.
Phil Jackson, en comparaison, si on parle de Phil Jackson rapidement, c'est quand même alors peut-être un autre level, parce que, comme on a dit, c'est 11 finales. 12 finales, pardon.
Finales, 11 victoires.
Difficile de faire mieux. Qualification en play-off, 20 saisons, 20 qualifications en play-off.
Après, il a eu des équipes quand même. Il a eu deux des trois meilleurs joueurs au time. D'accord. Donc,
Mais quand tu as Kobe Bryant, Shaquille O'Neal et Michael Jordan
Qui ça je ne sais pas de qui tu parles.
Je dirais que ça aide peut-être aussi. Ouais, et il n'y avait pas que. Hein.
Et puis, ouais, on n'évoque pas non plus. Il y a un certain Pat Riley, par exemple. Pat Riley, c'est aussi.
Non, mais je suis fâché avec Patoche.
24 saisons et 5 titres.
Hein. Ouais, c'est pas mal. Ah,
c'est aussi. Vrai. Bon,
c'est vrai qu'on pourrait le mettre aussi
dans le top 15.
Non, mais il y a 4-5 coachs qui sont quand même. Mais Eric Spoelstra, on n'en parle pas. Mais franchement, c'est un super coach. Enfin, moi, je trouve que c'est.
Moi, j'adore Spoelstra. Vous savez que je suis.
Jamais coach de l'année non plus.
Non, jamais coach de l'année. Mais Spoelstra, c'est 3 titres NBA.
Oui, puis c'est un mec qui sait jouer ses équipes.
2, non ? 3 ?
Non, t'as raison, c'est 2 titres. 2 titres. Par contre, c'est beaucoup de finales.
Oui, c'est ça.
beaucoup de play-in en plus.
6 finales NBA. 6 finales NBA et 2 titres. Donc, oui. Donc, c'est pas tout à fait au même niveau. Mais
après, alors, si le play-in est un titre, il a beaucoup de titres. Voilà.
Je vais militer pour que ce soit compté comme un titre mineur. Mais bon, Red, et pour terminer l'émission, les gars, pour citer Red Auerbach, hein, puisque Red Auerbach, légende aussi des Celtics, cette équipe qui a gagné 8 titres consécutifs quand même. Chose qui n'a jamais été faite, de 1959 à 66, c'est le record NBA. Finale disputée 11, c'est pas mal aussi. Qualification play-off 16 sur 20 saisons. Et titre NBA, comme on a dit, donc 9.
Il faut aller voir, quand ils ont fait les 75 ans là, de la NBA, ils ont aussi fait les 15 plus grands coachs de l'histoire. Bon, il y a des petits bugs dedans, parce qu'il y a un certain...
Doc
Rivers, il est dans les 15 meilleurs coachs de l'histoire.
M'expliquer sur
mais...
D'accord.
Bon, voilà quoi.
Bon, bah voilà.
Comme Lillard est dans les 75 meilleurs, alors que Tony Parker n'y est pas, quoi. Fermez la parenthèse, mais bon.
Bon, en tout cas,
on a des choses à dire, Bruno. Ce soir, Bruno, il taille. Hein. Ouais. Il envoie du loup.
Il envoie du sapin. Greg Popovich donc, va devenir président des opérations basket à San Antonio. On l'a vu quand même très, très amoindri hein, sur les images. Ça ne laisse pas présager
fade. Ouais, c'est un titre honorifique, hein, parce que bon. Par contre, j'ai pas compris pourquoi ils gardent Mitch, leur coach, là, avec tous les coachs qu'il y a sur le marché. Ils ont préféré rester avec...
Est-ce que c'est une décision de Popovich lui-même ? Est-ce que c'est lui qui sent le plus à même ? En tout cas, avec le matos que les Spurs devraient avoir, puisqu'on a, ils ont des opportunités maintenant qu'ils n'avaient plus sur la fin de carrière de Popovich en tant que coach, c'était vraiment, mis à part l'arrivée de Wayne Banyama, ça a été quand même très long et très compliqué.
Ça aussi, c'est triste qu'il n'ait pas eu plus de temps avec Wemby, parce que puis même Wemby, il aurait pu apprendre encore plus de trucs avec...
Moi, je pense qu'il va rester dans... C'est un mec intelligent, Wembanyama. Il va rester à l'écoute de ce que Popovich a à lui dire.
Il est quand même bien entouré, hein, Wemby. Ouais, il a quand même l'amiral Robinson, il y a Tim Duncan.
Ah, puis c'est là où tu vois la force de...
Ouais, c'est ça. Ils sont là, ils lui donnent des conseils. Enfin, pour le shoot, il y a quand même encore Manu Ginobili qui est dans l'affaire. Bon, je suis pas très inquiet pour Wembanyama. Je suis plus inquiet pour sa santé avec son épaule qu'au niveau de son coaching staff qui va le faire progresser.
On en reparlera. D'ailleurs, le mot de la fin.
J'adore quand un plan se déroule sans à-coup.
Messieurs, c'est le moment de se dire au revoir. La semaine prochaine, attention, Émission Money Time.
Yeah.
Ouh. Et puis oui, on revient la semaine prochaine.
C'est Playoff Time.
Voilà, ne ratez pas, vous aurez le débrief, mais on parlera de la remontada des Celtics qui ont éliminé New York 4-3.
Exactement.
Alors, j'espère pour retrouver un petit sourire sur mon Bruno là, ça serait bien là.
Ce soir, c'était tristoun.
Voilà. Ah, vous savez mais il n'est pas coiffé, il a des cernes. Il a des poches sous les yeux.
Voilà. C'est comme moi avec Miami, tu vas pouvoir dormir.
Dormir tranquille.
Ouais, enfin, toi et moi, entre Miami et Détroit, on visait pas le titre, quoi.
Non, c'est clair.
Enfin. N'empêche que s'ils se font encore sortir, c'est encore une année sans back-to-back, ça fera 7.
Ouais, ça fait beaucoup. Ouais.
Ça commence à faire, il n'y a pas d'équipe qui domine.
Ça commence à sortir le 7e champion différent cette saison, si je dis pas de bêtises.
Ouais, 7 champions différents en 7 ans.
Le changement, c'est maintenant.
Exactement.
Messieurs, à bientôt. On dit au revoir à tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Et puis, salut. Bonne émission. Alors, il n'y a pas Kenny Diggit derrière.
Wow.
Mais c'est José qui est au platine.
Yeah, José, tranquille.
Hey, José, ça va? On va dire un mot, coucou.
Coucou.
Ok, on lui laisse la main. Et, ciao et rendez-vous la semaine prochaine pour Money Time.
Salut, poteau.
Salut.